Radio Okapi.
Douze morts dans une nouvelle attaque de la Codeco hier au site déplacé de Gokpa en Ituri. Ces sites hébergent environ 1500 déplacés. Selon des sources concordantes, l'absence des FARDC et de la police de la zone justifie ces drames. L'armée, elle, indique que l'enclavement de la zone ne facilite pas les opérations militaires. Deuxième jour aujourd'hui de la conférence internationale sur la gestion des volcans des Virunga. Vous entendrez dans ce journal un des experts sur les leçons de l'éruption volcanique de Nyiragongo du 21 mai 2022. C'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire ce 20 mars. La province du Maniema ne dispose que d'un seul médecin, chirurgien, dentiste. Un véritable problème pour assurer la prise en charge des malades. Nous recevons ce midi Dr Bibiane Bokazola, l'unique médecin, chirurgien, dentiste de Kindu. Bonjour à tous. Cette édition part de l'Ituri. Le groupe armé Codeco a attaqué hier un site spontané qui hébergeait environ 1500 déplacés au village Gokpa 2 dans la chefferie de Ndo Okebu dans le territoire de Djougou. Le chef de cette entité coutumière avance un bilan de 12 morts dont 2 enfants et 4 femmes. Selon des sources concordantes, l'absence des FARDC et de la police dans la zone justifie ce drame. De son côté, l'armée indique que cette zone est en et ne facilite pas les opérations militaires. Isaac Rémoyopé nous fait le point.
Des assaillants de la Codeco munis d'armes blanches se sont introduits vers 4h du matin au site des déplacés de Gokpa 2 situé à environ 70 km au nord de Bounia dans les territoires de Djougou. Ils se sont mis à découper à la machette la population, affirme le chef d'Endo Okebu. Les cris des premières victimes ont réveillé d'autres déplacés de leur sommeil. Ils couraient dans tous les sens pour tenter de se mettre à l'abri de ces inciviques. Dans cette confusion pendant la nuit, 12 personnes ont été tuées, 6 hommes, 4 femmes et 2 enfants. Tout le site a été aussitôt vidé de ses occupants qui ont trouvé réfugient dans les entités voisines Mambisa et Mayalibo. Les chefs coutumiers locaux fustigent l'absence des services de sécurité. Ils disent avoir déjà alerté plusieurs fois les autorités militaires pour déployer les FARDC dans cette zone, mais sans succès. Contacter les porte-parole de l'armée en Ituri indique que ces milieux sont inaccessibles. Il faut d'abord désenclaver la région avant de lancer les opérations militaires. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Nous condamnons d'abord cette tuerie parce que ces gens-là prétendent être de bonne foi, de coopérer pour participer à la paix, mais les actions qui mènent sur le terrain, c'est des extrémités différentes.
La première des choses, il faut rendre d'abord cette zone accessible et mener les opérations contre les groupes armés qui inquiètent notre population là-bas.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, 10 maisons ont été incendiées et des champs détruits vendredi soir dans les villages de Benakabea et Kalingalinga dans le territoire de Katanda. Les sources sur place affirment que les habitants de Benakapuya voulaient ainsi manifester leur mécontentement suite à la remise en liberté provisoire par la cour d'appel de Paul Mutombo, prétendant au pouvoir de Benin Chimba, soupçonné d'être à la base des troubles ayant causé la mort de plus de 60 personnes et l'incendie de plus de 300 maisons. Il y a bientôt 2 ans, lors des affrontements ayant opposé les habitants des groupements de Benamouimbia, Benachimba et Benakapuya dans le territoire de Katanda. Ces événements se déroulent pendant que les éléments de la police et des FARDC sont dans la contrée. Esther Ndalafina nous en parle.
Les sources sur place affirment que les troubles ont commencé juste quand on a annoncé la nouvelle de la remise en liberté par la cour d'appel suivie de la sortie de la prison d'un prétendant chef au pouvoir de Benin Chimba condamné au premier degré pour 5 chefs d'accusation dont notamment l'association des malfaiteurs, l'incendie des maisons et l'assassinat dans le conflit foncier ayant opposé il y a bientôt 2 ans les habitants des groupements de Benamouimbia, de Benin Chimba et de Benakapuya. La même source précise que les habitants de Benakapuya se sont sentis en insécurité suite à la présence imminente de ces prétendants au pouvoir libérés de la prison centrale de Mbujimayi par la cour d'appel du Kasaï oriental après la demande de liberté provisoire introduite auprès de cette instance judiciaire. Pour manifester leur indignation, les sources sur place signalent que les habitants de Benakapuya sont allés incendier quelques maisons non encore dénombrées dans le village de Benakabea et Kalingalinga. Ceux de Benachimba ont riposté en incendiant à leur tour 2 maisons dans le village de Benakapuya. Ils ont par la suite détruit plusieurs cultures dans les champs des habitants habitants de Benakapuya. L'administrateur de territoire de Katanda déplore le fait que le village de Benakapuya est resté désert depuis la nuit de vendredi à samedi. Signalons que c'est depuis près de 2 ans que les forces de l'ordre ont été déployées dans cette contrée où les habitants se regardent toujours en chien de faïence. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Rendons-nous à Goma. Nous sommes au second jour de la première conférence sur la gestion des volcans des Virunga. La communauté scientifique, sous forme de panel, des exposés et de travaux en groupe, planche depuis hier sur le thème central de ces assises intitulé « Surveillance et gestion des risques volcaniques dans la région des Virunga, solutions et perspectives ». Un des experts invités à cette conférence internationale revient sur les leçons de l'éruption volcanique de Nyiragongo du 21 mai 2022. Il est au micro de Mathieu.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Nous, on a envoyé des volontaires sur les fractures. On a recensé 458 fractures. Et quand on a demandé les dates d'ouverture, par exemple, on découvre qu'un certain nombre de fractures, pas beaucoup, c'était ouvert au mois d'avril, donc un mois avant l'éruption. Ça, c'est un paramètre assez important. Après, on s'aperçoit qu'au même temps de l'ouverture de ces fractures, au mois d'avril, il y avait un essence sismique qui avait eu lieu. Et peut-être, on n'y avait pas prêté énormément d'attention. Après, on s'aperçoit que juste avant le centre sismique, donc cette série de tremblements de terre, il y avait eu une augmentation du flux de gaz dans le cratère du Nyiragongo. Donc des toutes petites anomalies qui, si on les prend séparément, n'ont peut-être aucune valeur. Alors, vu qu'on n'a pas l'habitude de raconter ou de faire mettre peur aux gens, je pense que c'est nécessaire de repartir de zéro. L'OVG l'a déjà fait, évidemment. Peut-être les chercheurs étrangers devraient faire la même chose, de s'y mettre au boulot tranquillement, en regardant avec un œil complètement différent toutes nos données.
Au sud Kivu, le rôle de la femme dans la lutte contre le réchauffement climatique était au centre des discussions hier dans une conférence débat qui a réuni plusieurs femmes de la société civile dans le cadre des activités du mois de la femme. Madame Madeleine Mbwenge, actrice de l'environnement, invite les femmes à lutter activement contre la déforestation. Elle s'exprime au micro d'Emmanuel Elamingi.
On est en train de voir qu'il y a quelque chose qui a des conséquences beaucoup plus fâcheuses sur la vie des femmes au niveau du Sud Kivu. La première chose, c'est de ne pas aussi jeter les immondices en désordre, les déchets ménagers et autres détritus. Elles doivent assainir leur environnement. Par rapport d'abord aux femmes cultivatrices, je leur ai demandé de changer les méthodes culturales, d'adapter les cultures. Elles doivent aussi abandonner les cultures surbrûlées pour pouvoir anéantir tant soit peu la déforestation. Planter les arbres et économiser l'énergie, ne pas utiliser beaucoup de braises. Elles doivent promouvoir les énergies alternatives telles que les briquettes issues des biomasses. Ça va leur permettre d'économiser de l'énergie, d'économiser le budget familial, mais aussi de réduire la présence du CO2 dans la nature. L'avantage est que depuis que j'ai commencé à utiliser les briquettes comme combustible associé à la braise, j'utilise seulement 2 sacs de charbon de bois pendant 12 mois. Si c'était des braises, je paierais un sac chaque mois pendant 12 mois. Et avec les briquettes, le budget familial est protégé et aussi l'environnement est protégé.
À Lubumbashi, plusieurs femmes entrepreneurs ont exposé leurs produits vendredi et hier samedi. Et ce sont principalement les produits de transformation. Pour la plupart d'entre elles, si elles sont mises dans des bonnes conditions, les femmes peuvent beaucoup notamment s'autonomiser et faire face au réchauffement climatique. Jean Gandou nous en dit plus.
Ce sont plus d'une trentaine de stands qui ont été érigés au bâtiment Ethnos à Lubumbashi. Les femmes y ont exposé une diversité d'articles. C'est par exemple les produits agricoles transformés, notamment l'ail, le piment, le manioc et autres. Il y a eu également des fauteuils fabriqués à partir des pneus des véhicules de récupération, des désinfectants faits à base de plantes, des objets de décoration des maisons et autres sacs pour dames fabriqués au moyen des perles. Pour la chef des divisions de genre, famille et enfants d'Aléo Katanga, par cette exposition, les femmes entrepreneurs ont démontré leur ingéniosité. Elles sont capables de s'adapter aussi au changement climatique en vue de leur autonomisation. Kabera Mujiji Mabora.
Malgré qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de pluie, les femmes dans leurs activités culturelles sont en train de s'adapter et savent quel type de produits elles peuvent s'aimer pendant la période où il fait très chaud ou bien pendant la période où il y a beaucoup de pluie. Et quand elles parviennent à produire, elles savent comment elles vont transformer leurs produits pour permettre à ce que la famille puisse consommer les produits naturels.
Notons que les séances de sensibilisation des femmes vont continuer la semaine prochaine avec notamment celles des confessions religieuses et de partis politiques. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Le monde célèbre ce dimanche 20 mars la journée dédiée à la santé bucco-dentaire. À cette occasion, une marche de santé a été organisée à Butembo en vue de sensibiliser la population sur l'hygiène bucco-dentaire. D'après le médecin dentiste Serge Mbuka et l'un des organisateurs, le manque d'une bonne hygiène bucco-dentaire peut entraîner la mort. Il appelle donc à une bonne hygiène de la bouche en vue de préserver son bien-être. Docteur Serge Mbuka le dit au micro de Sadiki Aboubakar.
Chez nous, si nous avons la plupart des cas de la carie dentaire qui est plus fréquente, nous avons aussi les abcès, les flegmons qui font gonfler parfois les joues. Alors nous avons aussi des cas de traumatisme, donc des fractures dentaires. La plupart des cas, c'est le manque d'hygiène buccale. Il y a beaucoup de micro-organismes dans la bouche. Alors dès que les conditions deviennent défavorables, qui vont maintenant causer la plupart des maladies. Exemple comme la carie dentaire. Donc ces bactéries-là qui sont dans la bouche, quand vous prenez le sucre, s'il n'y a pas un bon brossage, une bonne hygiène, ils vont transformer ce sucre en acide qui va vous causer la carie dentaire. La bouche, c'est la porte d'entrée de l'organisme. Donc, il n'y a pas de vie sans la bouche. Si la bouche est en mauvais état, la personne ne vivra pas. Alors, c'est pourquoi il faut prendre soin de la bouche, brosser les dents correctement chaque fois après les repas, mais aussi consulter les dentistes au moins deux fois par an. Nous avons vu beaucoup de cas de décès avec la maladie bucco-dentaire. Par exemple, avec une simple carie dentaire, comme j'ai dit au début, ça peut se compliquer à un abcès, puis soit à un flegmon, c'est-à-dire du pus. Quand le pus peut arriver au niveau, par exemple, de la poitrine, ça peut causer la mort.
Au Congo central, la zone de santé de Matadi peine à fonctionner, faute de moyens. Même les structures médicales dépendant des entreprises para-étatiques et privées ayant un contrat de collaboration avec cette zone de santé pour lui permettre de bien fonctionner ne contribuent pas depuis plusieurs mois. Ceci est la principale difficulté que le médecin-chef de zone de santé de Matadi a présenté hier au ministre provincial de la Santé et aux différents responsables du système sanitaire du Congo central à l'issue de la réunion du conseil d'administration de cette zone de santé tenue hier samedi à Matadi. D'après Dr Goth Makindou, l'absence de ses contributions mensuelles handicape la zone de santé à tel point que le système du froid dont les sites d'approvisionnement des vaccins et des médicaments de la zone de santé est en panne. On l'écoute au micro de Nana Plourish-Mambou.
La première grande difficulté que nous avons éprouvée, c'est par rapport au fonctionnement du bureau central de la zone de santé. Les structures contribuent pour le fonctionnement des zones de santé. Mais ça pose un sérieux problème avec les structures des entreprises qui ne contribuent pas au fonctionnement des zones de santé. Ce sont des petites contributions de 30 000 francs par mois et que la plupart ne facilitent pas la tâche. Nous donnons des vaccins gratuitement à toutes les structures de nos zones de santé. Toutes les structures privées, étatiques et même des entreprises. Mais maintenant, se pose un problème là où nous conservons ces vaccins-là, liés par exemple à la maintenance. La conservation des vaccins doit respecter la température entre 2 à 8 degrés Celsius. Parfois, si ça ne respecte plus cette température-là, il faut faire appel aux maintenanciers, aux techniciens, et c'est un coût énorme pour les bureaux centraux qui n'ont pas de fonctionnement. L'épée qu'ils donnent, ça nous aide également à assurer la maintenance de la chaîne de froid. Au moment où je vous parle, les dépôts de la zone de santé, là où on gardait tous les médicaments et intrants qu'on donne à la population. À ce moment, la climatisation ne fonctionne pas. Or, ça peut également agir ou altérer même certains médicaments que nous sommes obligés de donner à la population. Il faut assurer la maintenance pour ces dépôts-là. Ça demande des moyens.
Développer et approfondir les relations économiques entre la République démocratique du Congo et la Belgique, c'est l'objectif de la mission qu'effectue une délégation belge ici à Kinshasa depuis hier samedi. Cette délégation est conduite par Rudy Vervoort, ministre président en charge du développement territorial et du tourisme et de la promotion de l'image de Bruxelles. Il a aussi indiqué que cette mission rentre dans le contexte de l'invitation lancée par le président Félix Antoine Tshisekedi au gouvernement belge à se rendre à Kinshasa. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Cette mission fait suite à une rencontre que j'ai eue avec votre président, qui connaît particulièrement bien Bruxelles, et donc nous étions rencontrés lors de sa première visite officielle, et il avait immédiatement lancé l'invitation à ce qu'il y ait une large délégation à la fois académique, culturelle et économique qui puisse se rendre ici à Kinshasa. Malheureusement, la crise du Covid a un peu, je dirais, chamboulé le programme et le calendrier, mais enfin, on est là et nous allons avoir de nombreuses rencontres. a de nombreuses entreprises, à la fois bruxelloises, wallonnes et flamandes, qui sont présentes. L'idée est évidemment de développer et d'approfondir nos relations, je dirais, économiques, des investissements réciproques. Et puis au niveau culturel, des échanges, notamment en art moderne et contemporain, une délégation culturelle qui est aussi présente. Et puis il y aura une dimension sociale aussi, avec des rencontres que nous allons faire avec des associations sur le terrain. Donc c'est une mission à visage multiple.
Actualité internationale. Le samedi 19 mars a été une journée sans presse au Tchad, à l'appel de l'Union des journalistes tchadiens, un mouvement pour protester contre l'exclusion des journalistes du dialogue de Doha au Qatar entre le gouvernement et les groupes politico-militaires sur l'avenir du pays. Cette journée sans presse a été partiellement suivie. Les deux radios les plus écoutées de la capitale n'ont pas émis de la journée. Côté site d'information et télévision, le mouvement était plus partagé.
L'invité.
Comme annoncé, l'humanité célèbre ce dimanche 20 mars la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. La province du Maniema ne dispose que d'un seul médecin et chirurgien dentiste, ce qui pose un véritable problème pour assurer la prise en charge des personnes qui souffrent des maladies bucco-dentaires. Dans un entretien accordé à Radio Capi, Dr Bibiane Bocazola, médecin et chirurgien dentiste travaillant à l'hôpital général de référence de Kindu, demande aux autorités sanitaires de renforcer l'équipe vu le besoin que la population du Maniema a de problèmes des maladies bucco-dentaires. Docteur Bibiane Bocazola s'entretient avec Florence Kizalunga.
Docteur Bibiane Bocazola, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Nous célébrons la journée internationale de la santé bucco-dentaire. Quelle est la situation dans la province du Maniema?
Il y a des problèmes, des maladies bucco-dentaires dans la population. Il y a des malades qui souffrent de ces problèmes, de ces maladies bucco-dentaires, mais qui sont en train peut-être de traîner à la maison. Les autres n'ont pas assez de moyens pour venir à l'hôpital et les autres ne sont pas bien informés que ces maladies peuvent être soignées à l'hôpital. Voilà, donc il y a vraiment un sérieux problème dans la santé bucco-dentaire de la province de Maniema.
Y a-t-il vraiment des cas qui nécessitent les soins?
Oui, évidemment, il y a beaucoup de cas qui nécessitent les soins parce que toutes les fois qu'on a fait des portes ouvertes, c'est-à-dire des consultations gratuites, les malades étaient vraiment pleins et voire même les autres n'ont pas pu assister parce que les jours étaient trop limités. Donc, il y a des cas qui nécessitent vraiment les traitements.
En tant que dentiste, quelles sont les principales plaintes en ce qui concerne les soins bucco-dentaires en province?
Ici, dans la province de Maniema, je peux dire il y a trois principale plainte. Il y a d'abord le problème de caries dentaires qui est comme maladie phare. Il y a un deuxième problème sur les parodontites et il y a un troisième problème qui est le traumatisme maxillofacial. Donc avec la circulation des trafics routiers, il y a beaucoup de cas en tout cas de traumatisme.
Et qu'est-ce qui peut justifier cela?
Oui, comme je disais pour les derniers cas, donc le traumatisme, avec la circulation, les motos, comme on n'a pas assez des bus, il y a seulement les motos qui opèrent dans les transports. Donc avec beaucoup d'accidents de trafic routier, il y a trop de problèmes dans les traumatismes maxillofaciaux. Et pour ce qui est des parodontoses, les gens ne sont pas bien informés comment bien prendre soin de leur bouche. Et pour ce qui est des caries, bien sûr, aussi, parce que les gens ne sont pas bien informés, ils se laissent prendre des traitements par-ci, par-là, des feuilles, des histoires, pendant que la carie est en train d'évoluer jusqu'à ce qu'ils doivent venir à l'hôpital dans un état vraiment très critique.
Vous êtes seul au Maniema. Comment s'organise la prise en charge des malades?
Oui, ça c'est vraiment un problème. La prise en charge est tellement difficile parce que je suis d'abord seul. Il y a des cas qui passent outre. Et des fois, nous manquons de produits spécialisés ici même dans la province. Là, il faut toujours faire recours à Kinshasa. Et puisque la province est tellement grande, moi je suis à Kindu, je ne sais pas me déplacer, aller dans des territoires. Alors beaucoup de malades, il y a un petit nombre de malades qui quittent les territoires pour venir se faire soigner à Kindu, ceux qui ont un peu de moyens. Mais les autres sont vraiment abandonnés à leur triste sort.
Hygiène bucco-dentaire, quel conseil donner à la population?
Oui, je vais conseiller à la population de bien se brosser les dents. Quand est-ce qu'il faut brosser les dents? C'est après avoir mangé. Et combien de fois? C'est deux fois au moins par jour, le matin après le petit déjeuner et le soir après les derniers repas de la journée. Et se brosser bien avec une brosse à dents bien adaptée et aussi suivre le mouvement du brossage comme il se doit. Il faut pas faire le mouvement contraire pour ne pas aussi endommager la gencive et tous les tissus de soutien. Les brosses à dents que nous conseillons aux malades, que ce soit des fibres assez souples, que ce soit pas trop dur pour ne pas traumatiser. De consulter les services de dentisterie de l'hôpital général de référence de Kindu chaque fois qu'ils ont un problème, que ce soit au moins au début, parce que nous avons remarqué que les malades viennent souvent quand c'est déjà pire. Ce que je vais conseiller, que quand vous avez un problème dans les sphères bucco-dentaires, c'est mieux de consulter les services à temps. Là, on peut sauver les cas et on peut garder même ses dents sans qu'on les serre.
À part ça,
je voudrais aussi lancer un appel à notre hiérarchie. La province du Maniema souffre avec le manque des chirurgiens dentistes. Vraiment, s'il y aura de confrères, consoeurs qui sont dans la capitale qui vont me suivre, vraiment, je suis en train de demander qu'il y ait des médecins dentistes dans la province du Maniema, parce que couvrir toute une province, une seule personne, c'est pratiquement impossible. Même la seule ville de Kindu, c'est difficile de la couvrir déjà. Donc, si on peut nous envoyer des médecins dentistes dans la province, ça sera vraiment un soulagement.
Docteur Bibiane Bokazola, merci.
Merci à vous, Madame Florence.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Noëlla Luzitu Kabambi et Pierrot Elamiji. La mise en onde était assurée par Willem Lungamba. Merci à vous tous de l'avoir suivi.